Oui, donc Béatrice Bézini, CNRS. Alors j'ai une petite question pour Carole, parce que finalement tu n'as pas eu trop le temps de développer. Tu as dit apprendre des pratiques qui ne sont ni urbaines ni naturelles, mais en fait elles sont quoi? Elles sont un peu des deux en réalité. Non, enfin je voudrais que tu développes ce point-là. Et puis peut-être une petite question pour Arlette. Est-ce que les mobilisations vont aller jusqu'au bout? Et par exemple, est-ce que tu penses que les habitants vont s'emparer, par exemple, de l'action de groupe en matière de santé qui est maintenant ouverte aux populations? Voilà. Jusqu'où peuvent aller les mobilisations?
Oui, en fait, la question que tu me poses, c'est qu'il faudrait presque inventer un langage. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai présenté un travail à Montréal pour un colloque et on m'a dit, mais c'est pas la nature en ville, ce dont tu nous parles. Quand je parlais de la madrague de Montredon. Mais bon, on est quand même dans un quartier qui est imbriqué dans le massif, et ça va être pareil pour les habitats dans les calanques. Donc, il suffit d'aller dans ces quartiers, ou quand on interroge, on fait tout un travail aussi sur la mémoire de ces quartiers. Les gens sont urbains, enfin, ils disent qu'ils habitent à Marseille, qu'ils habitent en ville, et qu'ils ont la chance d'être à la fois dans la ville, la campagne et la nature. Donc il n'y a pas de... C'est des lieux hybrides, en fait, et c'est ça qui nous intéresse. Pour moi, pour le coup, le développement durable, il est là. Et il n'est pas du tout dans les politiques urbaines et environnementales qui segmentent en permanence les choses. Et notre travail de sociologue, notamment dans certaines instances, par exemple pour les scientifiques du parc, etc., c'est toujours de ramener ces politiques qui sont, selon moi, trop perchées, on va dire, de les ramener à une réalité existante. En fait, en permanence, on dit, mais il y a des pratiques qui sont celles que vous voudriez que vous reformatez dans un nouveau langage. Or, regardez l'existant. Il est déjà hybride et il est déjà porteur de signification en termes de rapport ville-nature, en fait. Je laisse ça.
Oui, où vont aller les mobilisations? Moi, je ne suis pas capable de répondre. Par contre, ce qui est très clair, je trouve cette mobilisation autour, justement, portée par le collectif Santé Littoral Sud, CLS. Ça fait à peu près 4 ans maintenant qu'ils se sont constitués. D'une part, il y a un très grand capital d'expertise au sein de ce collectif, donc une capacité à aller trouver justement des experts et à savoir comment se positionner vis-à-vis des acteurs publics, qui est vraiment très, très intéressante et très impressionnante même. Et d'autre part, c'est la capacité à s'ancrer complètement sur le quartier, à être sur une base extrêmement large, à faire un travail de terrain. Voilà. C'est-à-dire que ça passe pas forcément, il n'y a pas tellement encore, malgré les débats parfois qui sont souvent menés, ça passe pas tellement par les réseaux sociaux, même si quand même, évidemment, il y a un vrai travail d'ancrage qui prend aussi en compte la caractéristique de ce quartier, avec toutes ces micro-activités, encore ces petits commerces, encore ces petits services, encore cette capacité d'avoir du lien dans un voisinage proche.
Par rapport à la question, par rapport à l'introduction aussi sur le néo-hygiénisme, c'est-à-dire qu'il y avait aussi le pari de cette mobilisation, c'est que beaucoup de familles, on travaille sur ça aussi, on a des témoignages de personnes qui ont travaillé à Le Grément, ou qui ont travaillé à l'Escalette, etc., et qui voient arriver ce discours c'est pollué, vous vivez dans un... On stigmatise par la pollution et par le discours hygiéniste tout un cadre de vie, et donc une forme de pollution d'individu. Et donc, tout l'enjeu de la mobilisation, c'est de dire... bien sûr, il y a de la pollution assez catastrophique sur ces sites. Et comment on fait pour repenser, en fait, la pollution permet aussi de repenser son habitabilité, c'est-à-dire sans dénigrer l'origine de la pollution et l'origine de ces familles populaires, et tout en essayant de trouver un modus vivendi qui n'est pas simple, qui est de lutter aussi contre la libéralisation simple et habituelle, en fait.
Daniel Micolor, enseignant au lycée Marseille Vert. Je voulais vous poser une question un peu complexe. Est-ce que vous avez réfléchi à l'impact des transports? Je vais m'expliquer un peu. En tant qu'usager, je suis allé en vélo, on va dire en gros, depuis le littoral jusqu'au Goude, notamment un dimanche, bien ensoleillé. Et je peux vous dire qu'en matière de circulation automobile, on était vraiment dans un modèle typiquement marseillais, c'est-à-dire de désordre inimaginable, de queues de voitures et d'une pollution extrême. Alors, je comprends la contradiction qu'il y a entre l'habitant, l'usager, mais aussi le Marseillais qui va aller bronzer ou promener dans les calanques avec sa bagnole. Comment gérer cette contradiction et est-ce que les Marseillais seraient prêts à repenser d'une manière radicale cette question des transports?
Moi, je serais tentée de généraliser votre question. Et moi, ce qui me frappe quand je recueille des propos d'usagers ou de militants, par exemple sur Corpiou, souvent nos interlocuteurs oublient que Corpiou, c'est notre merde à tous. Quoi. Tous les Marseillais qui habitons là, ce sont nos propres déchets. Et là, il y a une forme de quasi schizophrénie. En tout cas, moi, c'est une des choses que je développe dans mon travail plus généralement. C'est-à-dire que la personne a un discours qui n'est pas forcément cohérent avec sa pratique, mais que la personne n'est pas en situation de mensonge ou de tromperie, ou alors elle se trompe elle-même. C'est-à-dire qu'on est dans une société paradoxale, où même les militants les plus motivés, à moins d'être en rupture totale avec les structures matérielles et économiques de la société, ont du mal à mettre en adéquation leur transition personnelle et, au niveau du discours et leur gestes. Et j'en profite puisque j'ai le micro pour réagir sur la question de Béa, même si je crois qu'elle est partie, mais tant pis. Moi, quand elle a posé cette question, mais est-ce que c'est de l'urbain ou du naturel, ça m'a fait penser aux travaux du catalan Martínez Allière, qui a travaillé sur l'écologie des pauvres, et il fait un constat que je trouve intéressant, qui est de dire, mais en fait, un certain nombre d'individus ne se réclament pas de la nature et de l'écologie, mais en fait dans la pratique sont certainement plus écolos que ceux qui en s'en réclament, et c'est peut-être aussi un peu de ça d'une certaine façon que l'on retrouve. Alors la critique qui est faite à Martínez Allière qui est justifiée aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse et idéaliser totalement ces usages populaires, et Dieu sait que les gamins des Cayolles font des tours en scooter fort brillants, voilà. Donc, mais ceci étant, il y a cette forme aussi d'écologie du pauvre qui ne se déclare pas comme écolo.
Bonjour, Jean-Jacques Dupin, observateur des quartiers sud de Marseille. Moi, la question que je voulais poser, bon, je ne vais pas revenir là, il y a pas mal de discussions qu'il faudrait avoir, mais le parc des Calanques est le premier parc urbain en France, et dans le monde, il n'y en a pas des masses, hein, que je sache. On cite Sydney, on cite de Cap, et il a 4 ans d'existence, il est en train de se construire. Donc je crois qu'avant. Moi, ce que j'aimerais savoir dans vos recherches, qu'est-ce que. Vous avez fait de la vidéo, qu'est-ce qui. Il y a des travaux qui ont dû être menés dans d'autres parcs urbains, périurbains des Calanques, périurbains dans le monde. Je veux savoir si. Qu'est-ce qui en ressort? Est-ce que vous vous êtes appuyé sur des choses? Est-ce que vous avez pu les comparer à une situation marseillaise? Enfin, c'est ce que j'aimerais savoir un peu.
Il y a eu un colloque il y a 2 ans, Biodiversities, qui est un réseau de chercheurs qui travaillent justement sur les parcs, on dit plutôt périurbains, si je ne me trompe pas. Donc, ça avait été organisé à Marseille. Je connais un peu plus ce qui se passe. Enfin, j'ai lu sur Cap Town où on a la même problématique avec la problématique des marges, qui en Afrique du Sud, bon, c'est un immense apartheid, enfin, un résultat. Donc, on retrouve encore l'idée du bidonville, etc., où il y a eu tout un travail avec les populations par rapport à des espèces protégées sur des dunes. Et on retrouve le même décalage entre une appréhension, une lecture naturaliste de ce territoire, qui fait que l'usager est souvent dans la mauvaise catégorie. C'est-à-dire, l'usager, c'est celui qui introduit l'espèce invasive, c'est celui qui détruit le milieu parce qu'il ne connaît pas, etc. Et de l'autre côté, l'approche de populations plutôt marginales et précaires, marginalisé qui va être stigmatisé. Voilà. Donc l'idée des chercheurs, c'est souvent de dire ben, comment on dépasse ça et comment on arrive à proposer un autre schéma de lecture de ces territoires.
Et puis, pour dire aussi que par rapport à d'autres parcs, il n'y a pas non plus les mêmes modalités, les mêmes conceptions de parcs. C'est-à-dire qu'il y a des parcs aussi qui sont assez réglementés au sens payant. Le parc national, dans la tradition française, les parcs nationaux sont gratuits et ouverts. Donc ça aussi, ça joue. Après, ce que je me rappelle de ce colloque, c'est qu'il y avait justement des positions différentes aussi selon les parcs, me semble-t-il, si je me rappelle bien, au Brésil, où il y avait une vraie conscience de cet enjeu, aussi de le rendre plus accessible et que ça devienne un lieu, finalement, on va dire, de pédagogie, mais véritablement ouvert à tous, avec énormément de moyens mis là-dessus. Et d'autres où, au contraire, ben non, on le réserve finalement un petit peu à un certain type de tourisme. Donc, c'est vrai que c'est des choses à inventer. Il ne faudrait pas penser, effectivement, que la critique qui est portée, elle ne porte pas tant, finalement, sur le parc que sur la gouvernance dans une ville où le parc fait partie de la ville. Hein, enfin, moi, je considère que c'est un morceau de territoire très important. Et donc, la question de comment est-ce qu'on arrive à s'entendre, à réguler, comment, si vous voulez, si on regarde sans rentrer dans les détails, mais ce que nous avions observé au moment de la création du parc, c'est que parallèlement, la ville remettait sur la table les documents d'urbanisme. Donc évidemment, la question du parc, on savait où est-ce qu'elle était, mais il n'y a pas eu de table ouverte véritablement sur les lieux d'interface dès les années, on va dire, 2000, quoi, un moment où les études étaient en train d'être faites, quoi. Donc aujourd'hui, c'est je pense, une démarche qui est en cours. Peut-être que là aussi, on pourrait avoir d'autres témoignages. Ce qu'on a ressenti très très fort, c'est que d'un côté, une protection renforcée d'espaces naturels, et bien de l'autre côté, on avait une densification accrue, avec tout ce que ça allait entraîner, fermeture résidentielle, absence de porosité, de lien.
Je passe une remarque, mais c'est que quand même, quand on entend les élus, ceux qui sont très concernés par le parc, parler du parc, en fait, ça va dans le sens de la densification d'une image de Marseille que l'on veut, hein, que vous connaissez tous, c'est augmenter la démographie, c'est faire un sea line, enfin, comme Barcelone, etc. Donc le parc devient une espèce de produit qui est vendu. C'est comme ça que, enfin, nous, à ce colloque, c'est comme ça que l'élu l'a présenté, c'est-à-dire, c'est comme ça que ça a été dit, on va donner en cadre des cadres qui viendront à Euromède, on les mènera d'Euromède au Calanque, où il y aura des très bons restaurants pour les accueillir. Donc il y a aussi une réinterprétation du parc dans une certaine vision du développement urbain de Marseille.
Une dernière question.
Bonjour, Cédric Dupuis, je suis architecte. Les doctorants, je m'interrogeais sur la nature des aménageurs justement de ces lieux d'interface entre le parc et la ville. Est-ce que Marseille, l'Agglo, peu importe, est toujours aménageur dans ce cas-là, ou est-ce qu'il y a une délégation, une concession d'aménagement qui est laissée dans une idée plus libérale de la construction de la ville à des opérateurs privés?
Oui, non, pour l'instant, dans les deux cas qui sont étudiés, alors on a deux cas différents, puisqu'on a un cas où le public est absent, c'est-à-dire qu'on aurait pu sur la Madrague de Montredon, hein, donc je dirais que pour l'instant, là, l'interface elle n'est gérée que par le privé, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut imaginer que si le projet immobilier va au bout, là, il va déjà se ceinturer d'une clôture. Alors que c'est aussi un des accès, il y a le canal qui passe, hein, enfin bon voilà, il y a des possibilités peut-être de fabriquer des continuités, mais peut-être que tout n'est pas non plus complètement perdu. Dans le cadre de l'ANRU, c'est un peu plus complexe, puisqu'on a quand même une maîtrise qui est publique à travers cette opération de renouvellement, et donc on est dans de la négociation publique-privée. avec un jeu sur un cahier, des prescriptions de cahier des charges et puis un promoteur qui essaye de grignoter un petit peu systématiquement. Voilà, donc c'est vraiment un jeu de négociation. Après, sur d'autres projets, parce qu'en fait, c'est vrai que les projets aussi sont en cours, hein, donc c'est difficile d'avoir un jugement. Il ne faudrait pas penser que là, on est dans l'ordre de l'évaluation, hein, évidemment, de ces travaux. Mais par exemple, sur ce qui est proposé au bout des boudes, ça, c'est effectivement à voir. C'est quelque chose qui est... qu'est-ce que ça va vouloir dire de créer ce lieu, ce schéma, enfin, cette porte d'accueil dans le village des Goudes, en plein cœur de parc, bien les Goudes soient l'exception et fassent partie de l'aire d'adhésion. Bon, enfin, voilà, à chaque fois, ça nous amène à devoir préciser les contextes. Donc, c'est vrai qu'il y a des volontés publiques. Là, il y a une volonté publique très claire, hein, de requalifier cette route d'accès, qui est extrêmement encombrée, de la requalifier dans sa structure, puisqu'elle est faite sur sol pollué. Mais la question principale qui a été aussi soulevée, là, sur la question des transports, bah, pour l'instant, moi, je n'ai pas de réponse sur comment est-ce qu'on va performer un système de transport public, quel qu'il soit, par navette, ou même s'il y a eu déjà des premières actions dans ce sens-là. Donc c'est ça qui pèse. Pareil pour la Caillole, ce lieu d'accès, d'aménagement, on n'en sait pas, on sait juste qu'il est localisé, on ne sait pas qui va le réaliser, et on ne sait pas non plus comment, depuis ce lieu-là, on va organiser l'accès à la Caillole de Sud, hein, qui aujourd'hui est un lieu qui reste quand même très fortement contrôlé par aussi une petite communauté cabanonnière qui habite à la Caillole. Donc c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes d'inégalité, en fait, l'accès aux animaux.
Je m'autorise une remarque puisque j'ai le micro. Si vous faites l'hypothèse, et je la partage avec vous, que ce parc peut avoir est devenu ou participe un produit métropolitain pour une attractivité, une image de Marseille, on peut faire l'hypothèse assez raisonnable qu'il va y avoir des projets un peu performants de mobilité, transport, déplacement qui vont accompagner le développement du parc. Et on va
juste un mot. On a interrogé les élèves du collège Roi d'Espagne là-dessus. Je crois que leur enseignant est présent. Voilà, monsieur Bedos. Et on a fait des focus group et on leur a demandé dans le cadre d'un grand projet avec les classes. Et alors là, c'est très simple, hein, l'accès pour eux, l'accès à Sormiou, on double la voie routière existante, donc on laisse l'accès aux voitures et on fait une voie pour les bus à côté. Donc la seule question, c'est de savoir si on met des grands ou des petits bus. Mais on laisse, surtout, on laisse la voiture, parce qu'on a du mal, enfin, en tout cas quand on est élève de 3e, à imaginer que l'accès puisse se faire autrement.